Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la paracha de Vayeshev et ce que je vais faire dans les deux prochaines minutes va peut-être vous sembler scolaire et fastidieux puisque je vais résumer la paracha, mais détrompez-vous. Loin d'un pensum soporifique, cette synthèse, du moins je l'espère, démontrera que la force de subversion, voire le souffle révolutionnaire du récit biblique, réside précisément dans sa structure, dans le déroulement du récit, ses césures et ses reprises. Vayeshev est consacré à l'histoire de la vente de Yosef par ses frères, puis à ses aventures en Égypte. Le récit se déploie durant presque toute la paracha, de manière linéaire et chronologique. Il commence par l'évocation de l'amour très particulier porté par Yaakov à Yosef, le fils de Rachel, la femme qu'il aimait et qui n'est plus, et de la jalousie que ses frères, les enfants de Léa et des servantes, conçurent à son égard. Il se poursuit avec l'épisode au cours duquel, après avoir envisagé de le tuer, les frères décident finalement de le vendre, et passent ensuite, logiquement, au récit de l'arrivée de Yosef en Égypte, de son travail dans la maison de Potiphar, de la manière dont sa résistance aux avances de l'épouse de ce dernier le mène en prison, et de son interprétation prophétique des rêves de ses co-détenus. Cependant, je n'ai pas été honnête avec vous dans mon résumé de la paracha, car ce que j'ai omis de vous dire, c'est qu'à un moment, un seul, de ce long déroulement chronologique, le récit digresse apparemment, prend la tangente, raconte une autre histoire, pour revenir ensuite abruptement à l'intrigue principale, à savoir la vie de Yosef. En effet, juste après le verset relatant l'acquisition de Yosef par Potiphar, le texte continue ainsi. Il arriva, en ce temps-là, que Yehuda s'éloigna de ses frères et s'achemina vers un habitant d'Abdoulam nommé Hira. Le récit biblique, le temps de 30 versets, nous raconte alors l'histoire de Yehuda, dont le fils aîné épousa une femme nommée Tamar. Après la mort du fils, son frère cadet, accomplissant le commandement du Lévirat, épousa sa veuve. Après qu'il fut mort lui aussi, Yehuda ne voulut pas laisser son Benjamin épouser Tamar, craignant qu'il ne décède également, et il fit croire à sa belle-fille qu'il souhaitait simplement attendre que le jeune garçon ait atteint l'âge adulte. Comprenant que Yehuda s'était joué d'elle, Tamar dissimula son identité et se fit volontairement prendre pour une prostituée par son beau-père, qui eut une relation avec elle. Comme il n'avait pas de quoi la payer, elle lui demanda de lui laisser en gage, je cite le verset, son sceau, son cordon et le bâton qu'il avait à la main. Quelques mois plus tard, apprenant que Tamar s'était prostituée et qu'elle était enceinte, Yehuda ordonna qu'elle soit brûlée. Tamar sortit alors les objets qu'il lui avait laissés en gage. À cette vue, Yehuda s'écria « Elle est plus juste que moi ». Tamar donna naissance à des jumeaux, Zérach et Peretz. Le récit, tout aussi abruptement qu'il avait interrompu le déroulement des aventures de Yosef, retrouve leur fil. Je cite « Yosef fut donc emmené en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta aux Ismaélites qu'il avait conduit dans ce pays. » Bien évidemment, la question à laquelle je vais essayer de trouver des pistes de réponse aujourd'hui est celle de savoir pourquoi le récit digresse à propos de Yehuda et pourquoi il le fait précisément à ce moment-là, rompant un déroulement qui se fait par ailleurs avec la plus grande fluidité. Or, si on se montre attentif aux aventures de Yosef, telles qu'elles nous sont racontées avant et après l'épisode de Yehuda et Tamar, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on est en train de lire a subtilement mais implacablement changé de nature. Avant l'interruption, le lecteur découvre une histoire familiale sordide, dans laquelle les pulsions, les rancœurs, les haines dominent et ont force de destinée. Un père qui favorise éhontément l'un de ses enfants, une fratrie unie dans la jalousie et la haine de celui qui les prend de haut, une rancœur qui prend des proportions tragiques, se soldant à la fois par le meurtre symbolique de Yosef, au dernier moment ce dernier sera seulement vendu, et par le mensonge destructeur des frères à leur père, l'invention de la mort de Yosef déchiquetée par une bête sauvage, mensonge dont le patriarche ne se remettra pas. Si après l'épisode consacré à Tamar et à Yehuda, le récit semble reprendre son cours et poursuivre sans accroc le déroulement des aventures de Yosef, il n'en est rien. Car tout de suite après le verset qui rappelle à l'esprit du lecteur la vente de Yosef à Potiphar, nous lisons ceci « Dieu fut avec Yosef ». Pour la première fois depuis le début de la paracha, la présence divine aux côtés de Yosef est perceptible, évidente, et elle ne cessera plus de se manifester, tant dans l'extraordinaire réussite de Yosef dans la maison de Potiphar, que dans son interprétation prophétique des rêves des prisonniers. La présence de Dieu, sans cesse signalée et rappelée par le texte, donne à la moindre péripétie relatée à partir de ce moment-là une signification totalement inédite par rapport à la première partie du récit. Chaque épisode, aussi catastrophique qu'il puisse sembler, fausse accusation, emprisonnement, oubli d'une promesse, est en fait le chaînon indispensable de ce qui mènera finalement Yosef à la position de vice-roi. Pour le dire autrement, il ne s'agit plus d'une histoire de haine familiale, mais de l'histoire des débuts du peuple juif, puisque, comme on le sait, les aventures de Yosef en Égypte conduiront à l'émigration de toute sa famille dans ce pays, à l'esclavage, puis à la sortie d'Égypte, au don de la Torah et au retour en tant que peuple en terre d'Israël. Ce qui, de façon apparemment inexplicable, constitue le pont entre les deux histoires, la petite et la grande, la familiale et la collective, la sordide et la providentielle, c'est l'épisode de Yehuda et Tamar. Tout se passe comme si, pour parvenir à déchiffrer dans l'histoire de Yosef la destinée particulière du peuple juif, il fallait passer par l'histoire de Yehuda et Tamar. J'aimerais proposer ici l'hypothèse selon laquelle, dans les différentes parties du récit, des objets peuvent nous servir de clés pour comprendre ce qui se joue et aussi ce qui bascule d'une section à l'autre. Revenons à notre sordide début, à notre fratrie déchirée par la jalousie et la haine. Un objet peut se lire comme le symbole, voire comme la métonymie, de cet enchaînement de pulsions humaines menant inexorablement à la tragédie. La tunique, offerte par Yaakov à Yosef, déclencheur dans le récit de la jalousie des frères, sera aussi l'instrument de leur mensonge. C'est elle qu'ils lacéreront et tacheront de sang avant de la montrer à leur père comme preuve de la mort de Yosef. La tunique devient ainsi le symbole de l'engrenage inéluctable des passions et des pulsions humaines lorsqu'elles se déchaînent. La tunique est porteuse d'une continuité tragique. Une fois embarqués sur le chemin de la jalousie et de la haine, les frères iront au bout, prêts à détruire à la fois leur frère et leur père. Or Yehuda, au début du récit qui nous est fait, semble lui aussi entraîné sur une pente dangereuse. Il fait le choix de la ruse, de la malhonnêteté vis-à-vis de sa bru, fait le choix d'empêcher son fils d'accomplir le commandement du Lévirat, croyant pouvoir contrer par des calculs humains ce qui relève d'une injonction divine. Pourtant, tout va basculer. Et ce basculement, ce sont des objets, à la signification diamétralement opposée à celle de la tunique, qui vont le donner à lire. En effet, les gages que Tamar demande à Yehuda comme garantie de son paiement à venir sont au départ les symboles mêmes du pouvoir qui permet à Yehuda de manipuler les autres, en particulier quand ces autres sont vulnérables, comme cette veuve qu'est Tamar, qui n'a aucun moyen de subsistance, ni aucun moyen de pression. Les objets laissés en gage par Yehuda, son bâton, son seau et son cordon, symbolisent son pouvoir, à la fois d'homme, dans une société patriarcale, et de juge, d'autorité morale. Si nous étions dans une dynamique semblable à celle qu'on trouve à l'œuvre dans la première partie du récit consacrée à Yosef, ces objets trouveraient leur plein accomplissement en continuant de porter les mêmes significations tout au long du récit. Yehuda trouverait moyen de décrédibiliser Tamar et de récupérer l'autorité, le pouvoir, dont les attributs en question témoignent qu'ils lui ont été impartis de longue date. Or, au contraire, ces insignes de puissance, au moment où Tamar les lui révèle, Yehuda accepte de leur conférer la signification exactement inverse de celle qui était la leur au départ. C'est leur vision qui lui fait dire « Tzadeka mimeni, elle est plus juste que moi ». C'est leur vision qui lui fait prendre conscience que le droit et la vérité sont du côté de Tamar, la veuve qui n'a pas de visage, pas d'accessoires, elle qui a aboli son identité en se couvrant d'un voile. Elle qui, justement, n'a pas d'attribut qui lui conférerait un quelconque pouvoir. Elle qui n'a qu'elle-même son corps comme moyen de transaction. Yehuda, dans sa confrontation avec les symboles de sa puissance présentés par la femme qu'il a voulu ignorer et éliminer, en fait les symboles de la subversion de l'autorité et du pouvoir qu'il représentait au départ. Des symboles d'humilité, d'honnêteté, de soumission aussi à ce que l'homme doit accomplir, même lorsque cela semble contrarier ses plans. Yehuda à la fois reconnaît Tamar pour ce qu'elle est, une femme à qui il doit justement reconnaissance et soin, et cesse de la considérer comme une possession. Il cessa, nous dit le verset, il cessa dès lors de la connaître. Au lieu de l'engrenage fatal incarné par la tunique, d'abord déclencheur de la jalousie, puis, dans une logique fatale et mortifère, instrument du mensonge destructeur, nous trouvons ici la réparation signifiée par l'inversion de la portée symbolique des attributs de Yehuda. Et c'est dans cette inversion précisément, dans cette capacité d'un objet à signifier non plus une fatalité, mais la possibilité d'un retournement et d'un sens nouveau, que va prendre naissance la lignée menant jusqu'au Messie. puisque l'un des jumeaux nés de l'union de Tamar et Yehuda, Peretz, sera l'ancêtre du roi David et partant du Messie. Autrement dit, l'histoire de Yehuda et Tamar est à lire non pas comme une digression, mais comme une annonce qui concerne l'horizon ultime du peuple juif. Et comme pour nous confirmer que cet horizon ultime est possible uniquement lorsqu'au lieu de laisser les passions humaines se donner libre cours dans un engrenage inarrêtable, les hommes trouvent en eux la force de subvertir et d'inverser les forces en jeu, un nouvel objet fait son apparition lors de la naissance des jumeaux. Or, il se trouva, lors de son enfantement, qu'elle portait des jumeaux dans son sein. Au moment de sa délivrance, l'un d'eux avança la main. La sage-femme la saisit et y attacha un fil d'écarlate pour indiquer que celui-ci était né le premier. Comme il retirait sa main, voici que son frère vint au monde. Elle dit « Avec quelle violence tu te fais jour !» et on lui donna le nom de Peretz. Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d'écarlate. On lui donna le nom de Zéra. Le fil d'écarlate, le symbole de l'antériorité, de la prépondérance, de toute cette puissance conférée dans le monde de la Torah à l'aîné, symbole qui était censé venir ici confirmer un état de fait incontestable, l'enfant avait déjà sorti sa main, finit par représenter le contraire de ce à quoi il était destiné. C'est son absence au poignet de Peretz qui dit justement la force vive, le pouvoir d'effraction et de renversement de celui dont le nom signifie justement « irruption » et qui sera l'ancêtre du Messie. Ce pouvoir messianique de retournement et de subversion ne pouvait venir que de l'homme porteur d'une faille intérieure abyssale, Yehuda, dont le texte venait de nous raconter la façon dont il avait présidé à la vente de Yosef, mais qui a été capable tout d'abord de s'éloigner de ses frères, de s'extraire de ce chaudron familial de haine et de destruction, pour entamer un cheminement qui semblait au départ confirmer le plus sombre, pour le mener finalement sur la rive opposée. C'est après qu'un tel processus a eu lieu que nous pouvons revenir à l'histoire de Yosef, qui s'éclaire alors d'une lumière totalement neuve. Car l'histoire de Yosef après celle de Yehuda et Tamar, c'est bien l'histoire du peuple juif. Une histoire où non seulement l'homme se sait accompagné et guidé par Dieu, même au fond d'un cachot où la traîtrise humaine l'a conduit, mais surtout où rien n'est jamais inexorable, où la fatalité et le tragique grec n'ont pas cours. L'histoire juive, c'est une histoire où Yosef est capable non seulement de pardonner à ses frères, mais aussi de leur donner la possibilité de réécrire et de réparer leurs propres échecs. En effet, Yosef, au moment où ses frères poussés par la famine se rendront en Égypte, fera en sorte que Binyamin, le deuxième fils de Rachel, la femme aimée et perdue, le survivant chéri resté auprès de Yaakov, finisse par lui être amené lui aussi. Il s'arrangera pour le garder en détention. Et c'est alors Yehuda, celui-là même qui, consumé par la jalousie, l'avait vendu, qui trouvera le courage de se confronter à cet homme tout-puissant et sera prêt à se sacrifier pour ramener Binyamin à leur père, à Yaakov. Yosef, au lieu de se venger de ses frères, leur permet au contraire de réécrire leur histoire, de la réparer en faisant de leurs failles, de leurs blessures même, les instruments de leur force. C'est ainsi le même processus de subversion, de retournement et de réparation qui forge la spécificité de l'histoire juive. Et l'épisode de Yehuda et Tamar non seulement éclaire ce qui se joue dans la vie de Yosef, mais illustre la continuité profonde qui imprègne le devenir du peuple juif, de sa genèse à l'horizon messianique. C'est ainsi dans la rupture, la césure, le basculement que réside, pour le texte, pour l'homme, pour le peuple, la possibilité même de son propre dépassement.